Ce soir, nous poursuivons cette deuxième grande partie entamée hier autour de ces trois catégories de dons. Dans les Écritures, les apôtres utilisaient trois mots différents pour qualifier et distinguer trois sortes de dons, trois catégories de dons. Nous avons perdu cette subtilité en n'utilisant qu'un seul mot générique, le mot « don ». Mais nous voyons que nous pouvons remonter à la source, à la pensée des apôtres. Et nous avons commencé hier à identifier les deux premières catégories de dons, les dons spirituels et les dons de la parole. Vu que les dons spirituels sont distribués par le Saint-Esprit et ils émanent de l'intérieur du corps de l'Église, des membres de l'Église. Et ils sont donnés pour la bonne santé spirituelle et morale de l'Assemblée. Avant tout, ils sont donnés pour édifier, pour encourager, pour consoler les membres de l'Église, mais aussi, comme Paul l'écrit dans 1 Corinthiens 14, afin de révéler les pensées des cœurs de ceux qui pourraient nous visiter et les amener à confesser que le Seigneur est présent au milieu de nous. Et puis, nous avons parlé des dons de la parole, selon Éphésiens chapitre 4, verset 11. Nous avons vu que le Seigneur appelle, Jésus appelle et met à part des hommes en vue de la prédication de la parole. Ils ont un ministère d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs. Ils ne sont pas donnés à une église en particulier, mais à toutes les églises. Ils peuvent être amenés ainsi à servir là où le Seigneur les conduit. Leur rôle dans la prédication de la parole de Dieu n'est pas simplement d'enchaîner des messages, mais ils poursuivent un but. Ils forment, préparent et équipent des disciples en vue de l'accomplissement de leur service, de leur appel et de la mise en œuvre de leurs dons. Dans quel but? Eh bien, de faire avancer l'Église, de faire grandir l'Église. Donc, à vrai dire, ce n'est pas tellement la fonction des prédicateurs, et je le disais d'avant tout, de fortifier les croyants pour que eux, c'est eux l'Église, c'est eux le corps, vous êtes le corps, ce corps de l'Église qui va ainsi se développer. Les dons spirituels, les dons de la parole. Et ce soir, nous allons parler d'une dernière catégorie de dons, les dons d'intendance, en nous appuyant sur deux textes dans l'épître de 1 de Pierre et Romains chapitre 12. Le troisième mot grec qui nous intéresse, qualifiant une troisième catégorie de dons, c'est charisma. Le premier, on l'avait vu, c'est pneumatikos, les spirituels, pneuma, ce qui vient de l'esprit. Puis les deuxièmes, c'était les doréa, peu importe si vous vous retrouvez ou non, mais c'était les dons de la parole, des dons très spéciaux qui sont donnés à des hommes. Et puis vient le mot charisma. Alors le mot charisma, c'est un mot aussi un peu générique. Il peut signifier beaucoup de choses dans les Écritures, dans le Nouveau Testament. Il peut signifier don de grâce, don gratuit, gratuité. Et il vient de charis. Et charis, c'est quoi? C'est la grâce. La grâce de Dieu. Donc, il nous rappelle que les dons sont des grâces du Seigneur. Et le mot charisma est employé dans le Nouveau Testament pour parler du don de la justification. Hein, là, c'est une grâce. De la vie éternelle, c'est aussi une grâce. C'est un charisma. Le don de la vie éternelle, c'est un charisma. Et puis, d'une manière plus particulière, ce mot est utilisé pour désigner donc une certaine catégorie de dons que le Seigneur accorde aux croyants pour servir dans leur église. Les deux textes les plus importants, je les ai déjà mentionnés, c'est 1 Pierre 4,10 et Romains 12, et on va maintenant prendre le temps d'analyser un peu plus en détail ces deux versets. Voilà donc ce texte de l'apôtre Pierre, et je vous invite à regarder aussi dans vos Bibles, c'est bien que vous puissiez l'identifier dans vos propres Bibles, puisque vous aurez ainsi l'occasion peut-être soit de noter quelque chose ou de souligner quelque chose pour ça reste à attirer votre œil quand vous y reviendrez. Et on va ajouter aussi le verset 11. Donc, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don charisma qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, bien que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, ça c'est le verset 11 qui suit, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Je voudrais d'abord m'arrêter sur le mot dispensateur. Traduit encore dans certaines Bibles par intendant, par économe. Pourquoi économe? Ça fait penser à économa. Économe parce que le mot économe vient directement du mot grec qui est là, qui est oikonomos. Un oikonomos, c'était le serviteur de la maison. Oikos en grec, c'est la maison. Et économa, donc, ce sont ceux qui servent dans la maison. Ça vient de là. Mais les oikonomos, c'était, donc, on peut traduire par des dispensateurs, des intendants. La Bible Sommeur, pour ceux qui l'ont, vous pouvez vérifier, elle parle de gérants. Voilà, des gérants. On pourrait appeler ça peut-être encore de manière plus moderne, des gestionnaires. Les dispensateurs étaient les gestionnaires de la maison de leur maître. Peut-être l'exemple qui vous permettra d'associer une image, c'est toujours bien d'associer une image à un concept, c'est Joseph. Chez Potiphar, Joseph était l'intendant, donc le dispensateur de la maison de Potiphar. Et c'était pareil, par exemple, pour dans d'autres circonstances, Eliezer aussi, etc., dans la maison d'Abraham. Les dispensateurs étaient donc des serviteurs, allez, comment je vais dire, c'était l'époque d'une classe supérieure. Ils n'étaient pas simplement des serviteurs subalternes qui exécutaient des tâches, mais ils étaient les chefs de la maison, les chefs de l'intendance. C'est-à-dire que c'est à eux que le maître confiait des responsabilités, confiait de l'argent et confiait le soin de s'occuper de la maison et de l'ensemble des serviteurs de la maison. C'est là qu'on comprend un peu mieux cette parole du Seigneur dans Matthieu 24, 45. Jésus dit, « Quel est le serviteur fidèle et prudent que le maître a établi sur ses gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable ?» Le serviteur que le maître établit sur ses gens. Et ça, c'est l'intendant, le dispensateur. Dans l'esprit de Pierre, nous sommes tous des dispensateurs. Nous sommes tous des dispensateurs, des intendants. C'est-à-dire que pour Dieu, il n'y a pas de serviteurs ou de servantes subalternes. Mais il nous considère tous comme des gestionnaires, des gérants, des économes de sa maison. C'est un peu l'idée qu'on a dans la parabole des talents ou dans la parabole des mines. Lorsque le maître s'en va, il va distribuer ses dons, des ressources financières, hein, des talents ou des mines, de l'argent, et une responsabilité à ses serviteurs, parce qu'il a confiance en eux, il sait ce qu'ils sont, et il, suivant leur capacité, leur attribue une certaine responsabilité. Eh bien, c'est pareil pour chacun d'entre nous. Dieu nous considère comme des dispensateurs. Pourquoi ? Ça nous ramène encore à notre triple vocation. Dieu nous considère comme des princes et des princesses de sa maison, donc des gens qui doivent mener une vie de gestionnaire avisé, sensé, à l'égard des choses que Dieu leur confie. Car nous croyons que Dieu est le propriétaire et que nous sommes les gestionnaires, les gérants, non seulement des biens de cette maison, de l'Église, mais de notre maison aussi. Tout ce que nous avons appartient en fait à Dieu. Et nous voulons que tout ce que nous avons appartient à Dieu. Dieu nous en donne en quelque sorte l'usufruit. Mais l'idée, c'est que Dieu est le maître de cela. Et véritablement, quand on apprend à vivre dans cet état d'esprit, qui est la pensée du royaume, eh bien, il y a une grâce, il y a une bénédiction de Dieu qui vient aussi. Voilà, Seigneur, ce que j'ai ne m'appartient plus, mais t'appartient à toi, tu en disposes, et puis tu me montres comment bien gérer les affaires de ma maison, parce que c'est ta maison, tu en es le chef. Donc, c'est ainsi que, eh bien, on doit apprendre à vivre dans ce monde, oui, comme des serviteurs fidèles, des intendants avisés, sages, tant dans les ressources justes, les richesses justes, comme les richesses de ce monde, eh bien là où nous sommes, travail, maison, église, famille. Nous voulons être ces gens capables, réfléchis et sages pour servir les intérêts du royaume de Dieu. Ce qui me permet de dire comme ça, je pense que nous avons, là aussi, c'est un grand champ d'études, de travail, de formation. Comparé à d'autres pays que je peux visiter, c'est juste une pensée qui me traverse l'esprit, mais nous vivons en France dans un pays où déjà plus de 50 à 60% de nos richesses sont gérées par l'État. Et l'État est conduit par l'esprit de Mammon. Non, on ne peut pas faire autrement. Et donc sur la part qui nous reste, il faut apprendre à bien gérer cette part-là pour qu'elle serve aussi à l'avancement du règne de Dieu. Donc le fait de mener une vie sur le plan comptable et de gestion qui soit selon les principes de Dieu est aussi important. Parce que nos finances sont les finances de Dieu, sont les finances du royaume de Dieu. Et un chrétien doit avoir une gestion avisée de son budget. C'est-à-dire, on doit, finalement, le surendettement est quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu, etc., etc. Et c'est aussi un champ de formation et d'études très important. Et nous devons absolument casser cette culture qui n'est pas la culture du royaume, concernant le sujet tabou de l'argent et des finances. Ce n'est pas la culture de l'évangile, c'est la culture du catholicisme et de la France. Mais si nous appartenons à une autre culture, celle du royaume de Dieu, ben nous regardons dans les évangiles, il est souvent question de l'argent, la façon dont il doit être géré, etc., etc. Et le problème, nous le savons, Paul l'écrit, c'est pas l'argent, mais c'est l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Donc, il nous faut être ses dispensateurs. Alors, là, on ne va pas parler de plus que ça d'argent, mais donc nous sommes ces économes dans la maison du Seigneur. Et pour bien gérer les intérêts de la maison de Dieu, puisque Dieu nous dit « Tu es mon dispensateur, tu es mon gestionnaire, bien, je vais t'accorder des dons particuliers, des capacités particulières. Tu as des compétences, des capacités personnelles, c'est bien. Mais maintenant, Dieu nous dit « Je t'accorde des dons. » Parce que je sais que la mission que je te confie est importante, elle est complexe, eh bien, je t'accorde et j'accorde à chacun d'entre vous un don. Un don pour servir dans ma maison. Et ce don, encore une fois, il n'est pas pour vous, il est au service des autres. D'abord, les frères et les sœurs, ne vous lassez pas de faire du bien d'abord envers les frères et dans la foi, hein, et puis aussi pour notre prochain. Donc, chaque croyant a reçu de Dieu un don charisma pour servir dans la maison de Dieu, puisque c'est le mot charisma que nous avons là. Et c'est personnel, mais on le trouve dans beaucoup d'enseignements aussi. On peut appeler ces dons des dons d'intendance. Voilà. Des dons d'intendance en liaison à notre service d'intendant dans la maison du Seigneur. L'autre texte important, alors, avec Pierre, on parlait de la maison, et avec Paul, on va parler du corps. Romains chapitre 12, on pourrait prendre aussi nos Bibles, là aussi, c'était quand même un passage très important. Comme ça, vous l'avez visualisé dans les Écritures, toujours une meilleure chose. Romains 12, à partir du verset 4, on aura la lecture complète. « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. » Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc maintenant il est question d'un corps. Et nous croyons que l'Église est le corps de Christ et Christ est la tête du corps de l'Église. Et il n'est pas prévu dans le plan du Seigneur que un chrétien puisse vivre en dehors du corps, tout comme nous n'avons jamais vu un pied survivre par lui-même, ni une oreille, ni une main, ni tout ce que vous voulez. Mais pour vivre, chaque membre visible ou chaque organe intérieur de notre corps a besoin d'être rattaché au corps. Nous avons tous une place dans ce corps, et particulièrement dans une église locale. C'est d'ailleurs l'une des missions du pasteur, de veiller à ce que chacun trouve pleinement sa place en fonction de celle que Christ a préparée pour lui. nous avons une place dans son Église. Et parce que nous avons une place, nous devenons membres de cette Église. Donc. Et comme Paul l'écrit, vous pouvez noter, vous le voyez à la fin du verset 5, nous sommes plusieurs, mais c'est vrai que nous sommes plusieurs, et nous sommes différents, ce qui n'empêche que nous voulons former un seul corps ensemble. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que nous sommes différents. D'ailleurs, mon corps, ce qui est à l'intérieur comme ce qui est visible, n'est pas du tout la même chose. Et heureusement que chaque organe est différent d'un autre, parce que s'ils étaient tous pareils, on ne pourrait pas vivre, c'est évident. Donc la richesse de l'Église, c'est que nous soyons dans cette diversité qui va nous permettre ensemble de constituer un corps en pleine force, en pleine santé, et capable d'agir bien au-delà de mes capacités. Et puis il est écrit, nous sommes membres les uns des autres. J'attire votre réflexion sur ça. Nous sommes tous ensemble attachés à Christ, mais nous sommes membres les uns des autres. Tout comme le corps et les membres du corps et les organes sont tous quelque part reliés à la tête, hein, au cerveau, pour fonctionner à travers les nerfs et tout le réseau du corps, il n'empêche que on ne peut pas dire que chaque membre ou chaque organe intérieur est directement attaché au cerveau, est directement attaché à la tête. Le foie n'est pas attaché à la tête. Le pied n'est pas attaché à la tête. Et que serait notre corps si chaque membre ou chaque organe voulait être attaché à la tête? Bon, on ne veut même pas réfléchir à ça. Mais par contre, les membres du corps, visibles ou internes, sont attachés les uns aux autres. Eh bien, dans l'Église de Jésus-Christ, c'est pareil. Ensemble, nous sommes attachés à la tête, mais aussi nous sommes membres les uns des autres. Et nous sommes attachés les uns aux autres. Et nous sommes là dans cette unité, dans cette complexité et qui enrichit et qui est merveilleuse. Donc, nous devenons membres les uns des autres. Et nous avons besoin les uns des autres. Dans notre différence, dans nos différences, notre diversité. À partir de la place que nous occupons, nous allons aussi avoir une fonction particulière. Et chaque partie de notre corps a une fonction. Je ne vais pas détailler ces choses, vous voyez bien ce que je veux dire. Hein, les yeux, les oreilles, mais puis... Et chaque membre, visible ou invisible, est important. Évidemment, le cœur est important. Évidemment, les poumons sont importants. Mais quand on pense à des organes qui deviennent un peu plus petits, les reins sont plus petits, bien plus petits que le foie. Oui, mais il est important. Le pancréas, la vésicule biliaire. Ouais, vous savez tout ça, c'est quand ils vont pas bien, ben c'est tout le corps qui en pâtit. Eh bien, c'est ainsi que nul ne peut dire, ben moi, qu'est-ce que je fais, ma place, elle est pas. Non, non, chaque membre du corps a une place et a une fonction pour le bon fonctionnement du corps tout entier. Et si le plus petit des membres ne remplit pas sa fonction, eh bien, le corps est embêté, parfois est paralysé, souffrant, malade. Et il faut que chaque partie de notre corps fonctionne bien. Et que chaque partie de l'Église fonctionne bien. Donc, nul ne peut dire « je suis petit ». Mais nous avons tous un rôle. Et c'est vrai que la tentation est grande parfois de faire comme celui qui n'avait reçu qu'un talent, de dire « mais moi, j'ai qu'un talent ». Lui, il en a 5. Elle en a 2. Moi, j'en ai un. Oui, mais bon, ce talent, si tu ne le mets pas à l'œuvre, il va manquer. Il va manquer dans le résultat final. Mais toi aussi, tu passes à côté de ton appel. Et encore une fois, heureusement que les plus petits de nos organes ont décidé quand même de fonctionner, parce que quand ils ne fonctionnent pas, eh bien, ça pèse sur le corps. Et l'Église, les églises locales souffrent trop souvent de ce que beaucoup disent, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas grand-chose. Le problème en disant « j'ai pas grand-chose », c'est qu'ils doutent de la valeur de ce que Dieu leur donne. Parce que quelle que soit la valeur de ce don, il est important parce qu'il vient de Dieu, parce que toute grâce et tout don excellent vient du Père. Et le Père ne donne que des dons et des grâces excellentes, et donc qui sont utiles pour l'Église. Donc vous êtes utile dans l'Assemblée. Vous y avez une place, par votre élection, vous y avez une place. Vous y aviez une fonction. Et parce que vous avez une fonction, eh bien, vous avez aussi un don pour faire fonctionner ça. Il faut que la machine, elle marche. Il faut que le membre soit actif. Parce que s'il n'a pas cette capacité, quel organe ne peut pas accomplir son travail, eh bien, il y a donc un problème. Donc, le Seigneur nous donne une fonction, mais il ne nous dit pas « débrouille-toi », il nous accorde un don, une capacité qui va avec. C'est donc l'image de la maison, et il y a l'image du corps. Cette maison fonctionnera pleinement et parfaitement lorsque tous les membres qui sont déjà là accompliront ce que Christ a préparé et prévu pour eux. Et c'est pareil pour ce corps. Mais trop souvent, malheureusement, il arrive qu'il y ait des choses qui soient défaillantes parce que les dons ne sont pas mis à l'œuvre comme ils devraient l'être. Des gens tiennent une place, ont certainement une fonction de la part de Dieu. Ils ont même reçu le don, mais il n'est pas mis à l'œuvre et c'est bien dommage. L'Église de Jésus-Christ n'est donc pas simplement et surtout pas un lieu où on vient pour un programme, une réunion. Non, non, il y a beaucoup plus. Je parle aussi de cette image avec le corps. Il y a des membres visibles et des membres invisibles avec le corps. Il y a même plus de membres invisibles à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais dans l'Église, nous avons trop souvent, mettons le focus surtout sur ce qui est intérieur, le fonctionnement intérieur. Bon, il y a des membres qui sont là pour agir à l'extérieur. Il y a des dons qui nous sont accordés pour le service de l'Église, mais il y a aussi des dons qui sont accordés pour le service du royaume de Dieu, pour servir à l'extérieur. Là où Dieu peut nous placer. Parce que je crois que lorsque Dieu nous confie une responsabilité dans ce monde, dans un travail ou dans tout ce que vous voulez, moi je crois que ça vient de Dieu. Je crois que ça vient de Dieu, ce sont des choses que Dieu ouvre afin que nous soyons ses serviteurs dans ce qu'il nous confie. Ce que je dis, c'est que souvent c'est que les chrétiens, à commencer par vous ici, par votre travail, par vos relations, peut-être par les choses qui vous sont confiées, ce n'est pas les hommes qui vous les confient, c'est Dieu qui vous les confie. Vous êtes placés à des postes que nous, pasteurs, ne pouvons pas forcément atteindre. Des gens que nous ne pouvons pas rencontrer, mais vous pouvez les rencontrer. Et surtout, la chose sur laquelle il nous faut combattre, c'est cette espèce. Alors, mon mot va être très très fort, mais bon, je vais commencer par un mot plus simple, mais il est un peu complexe. Mais on parle de dichotomie, c'est-à-dire de deux parties. La vie chrétienne est scindée en deux. Ah, j'ai ma vie spirituelle et j'ai ma vie de tous les jours. Dieu est un. Le chrétien est un. Mais parfois, cette dichotomie tourne à la schizophrénie. C'est-à-dire qu'à force d'avoir deux mondes séparés, on a presque deux personnalités séparées, ce qui alors est terrible. Et malheureusement, ça arrive. Ce qu'on est à l'Église et ce qu'on est dans le quotidien. Mais non, ça ne peut pas être ensemble. Il doit y avoir une unité, une harmonie. Et non seulement le Seigneur vous qualifie pour servir dans l'Église, mais il veut vous utiliser. Ce que vous faites, votre travail, vos relations, votre engagement, croyez que cela vient de Dieu et que Dieu veut vous employer dans ça. Il faut vraiment qu'on arrive à briser cette dichotomie, cette séparation. cette séparation, qui a trop longtemps vécu ce cloisonnement presque entre ce qui est spirituel et ce qui est quotidien. Ça n'existe pas dans la pensée du Seigneur. Dans notre passage, l'apôtre Paul continue en évoquant sept dons, qui sont des dons charisma, et qui sont ce que j'appelle encore une fois, comme pour Pierre, des dons d'intendance. Mais comme il le fait dans Corinthiens 12 pour les dons spirituels ou dans Éphésiens 4:11 pour les dons de la parole, il le fait ici dans Romains 12 pour ces dons d'intendance, il va les lister. Et il en mentionne donc sept, qui sont la prophétie, le ministère, l'enseignement, l'exhortation, la libéralité, la présidence et la miséricorde. Avant de rentrer en détail, voyons-les encore d'une manière générale. Ces dons-là, ces charismas, ces dons d'intendance, sont d'abord opérants à l'intérieur de l'Église. Voilà, ils sont donnés. J'ai dit hier que les dons spirituels sont pour la bonne santé de l'Église, mais les dons d'intendance sont pour le bon fonctionnement de l'Église, la mise en œuvre de l'Église, l'action de l'Église. Ils sont universels en tant que personnes, en termes des personnes concernées, tous les croyants possèdent un don d'intendance. Parce qu'il y a un appel de Dieu pour chacun d'entre nous. Ça aussi, gardez cette chose, cette parole dans votre cœur, il y a un appel de Dieu pour vous, personnellement. Ces dons ne sont pas ponctuels, mais ils sont permanents. Vous possédez un don. Dieu, le Seigneur, vous l'a donné. Vous possédez un don d'intendance. Le maître de la maison vous l'a donné. Alors, avant d'entrer plus en détail, évidemment, quand on regarde cette liste de ces sept dons, elle a posé beaucoup de problèmes. Parce que, pour certains, finalement, quand on la lit comme ça, on dirait qu'il y en a, on a même une espèce de mélange entre les deux autres catégories de dons, entre les dons spirituels et les ministères dons, notamment à cause de prophétie, à cause de ministère, à cause d'enseignement, ou d'exhortation pour la prophétie aussi. Donc, on a trop souvent fait, on passait sur cette liste, en la voyant comme une espèce de liste fourre-tout, bon, Paul fait une liste et puis c'est tout. Et puis en y réfléchissant, justement, en observant la manière dont il écrit ses dons, les mots qu'il utilise, les docteurs et puis, ont vraiment mis en place et la pensée s'est affirmée de dire que nous avons là une liste à part entière de dons qui sont différents, même si leur intitulé est le même des autres. Alors, en quoi sont-ils différents? Il existe un don spirituel appelé don de prophétie et il existe un don d'intendance qui est aussi appelé prophétie. Bien sûr, ils se ressemblent. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et c'est pareil, par exemple, aussi pour enseignement. Alors, on va rentrer maintenant un peu en détail. Parce que, ça là, on y viendra, ça à la conclusion tout à l'heure, mais je le mets aussi un peu en préambule de cette étude. Je suis convaincu que la mise en œuvre de ces dons est un vivier de croissance de l'Église. Et que, justement, quand les ministères de la parole travaillent à former, équiper les gens, c'est par rapport à ce don d'intendance qu'ils ont reçu, pour qu'ils puissent accomplir ce don d'intendance. Après, que Dieu l'utilise dans les dons spirituels, oui, parce que Dieu peut nous utiliser tous dans les dons spirituels, que Dieu en appelle au milieu de nous pour le ministère de la parole, oui, il le fait, gloire à Dieu, mais ça, il va le faire à l'égard de l'un ou de l'autre, mais pour ça, ces dons sont pour tous. Donc, vraiment, vraiment, beaucoup travailler sur ça. Quand j'ai pris mon église à Paris, au bout de quelques temps, c'était une très belle assemblée. Elle avait 70 ans quand je l'ai pris. Une des plus anciennes églises du centre de Paris. Puis c'est une église, bon, je sentais vraiment qu'elle est rentrée dans une phase de renouvellement complet. À Paris, il n'y avait qu'à ouvrir les vannes, et puis on a vu la jeunesse arriver. Et quand, en voyant cette jeunesse arriver par dizaines, par centaines, parlant avec mes collègues, j'ai dit, on va bâtir cette église non pas sur un modèle d'ancien, mais sur un modèle de diacre. On va lever des diacres. Parce que ça ne sert à rien de lever des anciens, il faut d'abord, on voit des diacres de se lever, c'est ce qu'on voit par exemple dans Actes 6. Et on va travailler à former ces jeunes, à les encourager, à leur donner la doctrine, la matière biblique, à leur expliquer comment fonctionne l'Église, comment Dieu veut utiliser dans ce monde et dans l'Église, quels sont leurs dons et tout et tout. On a travaillé beaucoup sur ça dans les différents programmes qu'on avait. Et on a vu des diacres se lever, des jeunes servir dans tous les talents qu'ils pouvaient avoir, avec aussi les dons. Et puis de ces diacres sont même sortis ensuite des anciens, même des missionnaires, plusieurs pasteurs avec le temps. Mais on a travaillé sur ça. Et je pense que ça vaut vraiment le coup dans les églises de travailler sur ça. Alors, la prophétie. Et dit, si c'est un don d'intendance de prophétie qui n'est pas tout à fait la même chose que le don de prophétie d'un Corinthiens 12. Dans Actes 21, verset 9, il dit, il parlait des quatre filles vierges de Philippe l'évangéliste, qui prophétisait. La manière dont il le dit nous amène à comprendre que deux choses. C'est pas simple, quand il dit prophétiser, c'est pas simplement qu'elles exerçaient le don spirituel de prophétie. Parce que ça, on peut tous prophétiser. S'il insiste comme ça, c'est pour dire qu'il y avait une dimension particulière sur ces jeunes femmes. En même temps, on n'était pas prophétesse au même titre qu'Agabus ou Silas, qui étaient prophètes, qui prêchaient et qui allaient de lieu en lieu pour prêcher à part. Non, elles étaient dans leur assemblée. Je suis convaincu que dans les églises, et je l'ai vu, nous avons travaillé sur ça aussi, il existe des frères, des sœurs, et des sœurs particulièrement, que Dieu utilise, que le Saint-Esprit utilise pour les dons spirituels, mais qui en même temps, avec le temps, développent une communion particulière avec le Saint-Esprit, qui fait que ce sont des gens qui ont une sensibilité. Et là, on va aborder un sujet, bon, on ne sait jamais trop comment le gérer, mais il faut apprendre à le gérer. Par exemple, la question des visions, des songes, des paroles de connaissance. Et véritablement, il y a des frères, des sœurs qui ont cette dimension-là. Pas simplement prophétiser de temps en temps, mais Dieu leur parle. Dieu leur montre des choses. Et c'est ce que j'appelle le don d'intendance de prophétie. Ça va au-delà simplement de la manifestation ponctuelle d'un don spirituel. Mais il y a une marque de Dieu, il y a une communion avec le Saint-Esprit, il y a des révélations de l'Esprit, des communications de l'Esprit d'une manière régulière, parfois même très régulière. J'ai rencontré beaucoup de personnes comme ça, et je crois qu'il faut vraiment les encourager, les accompagner, les former à ça, les former à entendre le Saint-Esprit, d'abord à développer une relation avec le Saint-Esprit, à entendre le Saint-Esprit, à reconnaître le Saint-Esprit, etc., etc., à prendre confiance aussi dans les dons qu'ils ont reçus, dans ce don de prophétie. Parce que ce sont des gens qui vont avoir une importance dans l'Église, cette sensibilité, et qui vont être d'une grande bénédiction pour l'Assemblée. Combien de fois j'ai reçu des frères, des sœurs me dire, frère, voilà, ben, j'ai des visions et ça fait pas mal de temps que je suis avec, j'ai eu un songe, voilà ce que le Seigneur m'a montré, ceci, cela. Et puis souvent, ils sont embêtés parce que, d'abord, des fois, ils n'osent pas en parler, parce qu'ils ont peur d'être pris pour des rêveurs ou des illuminés. Ils n'osent pas en parler et ils ont peur de ne pas être écoutés. Et puis, ils ne savent pas quoi en faire. Donc, je pense, dans une église de Pentecôte, il faut, au niveau des responsables, pasteurs, anciens, et puis frères et sœurs, savoir écouter, non pas pour rabaisser, mais pour examiner, et puis peut-être pour encourager. Parce que je crois que Dieu distribue de tels dons, et dans vos derniers jours, vos fils et vos filles prophétisons, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Donc, je crois que ce sont des choses qui se passent. Donc, le don de prophétie, d'intendance en tout cas, c'est un peu comme des prophètes locaux. Comme des prophètes locaux. Le don de service, appelé encore don de ministère, mais comme je vous ai dit que le mot ministère n'existe pas dans le Nouveau Testament, puisque c'est du latin, donc je préfère le mot de service, puisque c'est diakonia en grec qui a donné service en français. Donc le don de service. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas, et elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Et vous savez quel chagrin a touché l'Église lorsqu'elle mourut. Don de service. Il ne s'agit pas là simplement de gens qui servent occasionnellement. Non, dans l'Assemblée, nous sommes tous appelés à servir. Je parlais l'autre jour du service général. Hein, nous sommes tous appelés à servir. Il ne s'agit même pas de... Mais il s'agit plutôt de gens qui ont vraiment cette capacité à servir, à être présent, à être en bénédiction dans ce qu'ils accomplissent. On peut leur confier des tâches et on sait qu'ils vont bien s'en acquitter. Qu'ils sont fidèles dans l'exécution, qu'ils sont méticuleux, etc., etc. Dans l'entretien des bâtiments, le ménage, la sécurité, la conception de repas, l'enfance, les couples. Ces personnes s'acquittent de leurs tâches, mais en plus, elles le font dans un réel état d'esprit de service, de dévouement, de persévérance, d'humilité. Et elles sont précieuses pour le bon fonctionnement des églises et des œuvres. Bon, beaucoup, vous avez été dans les colonies à Embrun-Gap et d'autres, et vous savez combien il y avait des personnes qui étaient là, année après année, sur lesquelles ces œuvres s'appuyaient. Mais aussi, les églises s'appuient sur ce genre de personnes. Là, il y a un don de service. Il y a un don de service. Et on bénit Dieu. C'est pour ça que, quand Tabitha est parti, tout le monde pleurait. Parce que qui allait remplacer Tabitha? Et quand une Tabitha quitte, déménage d'une église ou s'en va avec le Seigneur, ça fait un trou. Un manque. Parce que vraiment, c'est des gens qui sont importants pour le bon fonctionnement de l'Assemblée. Le don d'enseignement. Ah, la sœur qui en parlait hier soir, de ce don d'enseignement. Et puis il y avait une question aussi, où là la question c'était, il faut que l'évêque soit apte à l'enseignement, avoir le don d'enseigner, de supporter, à quoi reconnaît-on ce don? Alors, le don d'enseignement. Il existe un don de la parole qui est le don des docteurs. Le don des docteurs. Mais les enseignants, Paul était un enseignant, Apollos était un enseignant, était des docteurs. Mais il existe un don d'intendance qui est un don d'enseignement. Et l'exemple le plus simple, c'est Priscille et Aquila. Ils n'étaient pas des docteurs comme Paul ou Apollos. Ils n'étaient pas des prédicateurs. Sauf que, à Éphèse, quand Apollos arrive, qu'il en est au début de son ministère, il connaît tout Jésus, sauf peut-être l'élément principal, il ne connaît pas le nom. Il connaît toute la doctrine, mais il connaît pas Jésus, il connaît pas le monde. Il lui manque cet élément central. Eh bien, après l'avoir entendu, Priscille et Aquila vont le prendre avec eux. Et ils vont lui enseigner, plus exactement, la voie de Dieu. Mais ils l'ont pas, vous voyez, c'est pas de la prédication, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce qu'on trouve, notez ce verset, il est très important, 2 Timothée 2:2. Et l'enseignement que tu as reçu de moi en présence de nombreux témoins, Paul parle à Timothée, l'enseignement que tu as reçu de moi en présence de nombreux témoins, transmets-le à des hommes dignes de confiance qui seront capables, à leur tour, d'en instruire d'autres. Priscille et Aquila avaient reçu l'enseignement de Paul, un couple fidèle, et ils ont été capables de retransmettre l'enseignement reçu de Paul à qui? À Apollos. Eh bien, ce don d'enseignement, les anciens en ont besoin, oui, qu'ils soient aptes à l'enseignement, doués pour l'enseignement, qu'ils aient ce don est important. Qu'ils soient capables de restituer l'enseignement qu'ils ont reçu. Mais c'est vrai pour les anciens, c'est vrai. Et là, on va penser aux dames, je vais vous expliquer pourquoi aussi, je m'appuie sur ça, pour l'enseignement des enfants, pour l'enseignement des femmes. Paul le dit à Dantite, hein, que les femmes vont enseigner les femmes. L'enseignement dans les écoles bibliques, mais aussi de travailler à développer de l'enseignement, du discipulat, ou peut-être l'initiation au baptême, la préparation au baptême, pardon, la découverte de la foi, les premiers pas de la foi, enfin, toutes sortes de cours, voire des cours même avancés, qui ne sont pas forcément donnés par le pasteur, mais qui peuvent être donnés par des gens qui ont ce don d'enseignement, qui sont capables de restituer d'une manière ordonnée, structurée, logique, agréable à écouter et avec une inspiration, une onction du Seigneur sur ce qu'ils apportent. Et nous avons besoin de ces enseignants parce qu'il est évident que le pasteur ne peut pas tout faire. Et d'ailleurs, Paul le dit, ce que tu as reçu de moi en présence de nombreux témoins, transmets-le. Transmets-le à des hommes dignes qui vont être capables à leur tour de le donner. Et donc, on doit encourager, il faut prendre le temps de former ces gens qui, on sent, ils ont cette fibre-là pour donner, pour enseigner, pour transmettre quelque chose. Je crois que c'est la responsabilité de l'Église, en fait. Aussi, le pasteur doit travailler dans ce sens et accepter, ce n'est pas toujours facile, mais de former et de déléguer une part de ses responsabilités pour dire que l'Église puisse assumer ce travail puisque ça fait partie du don d'intendance et donc des dons qui fonctionnent à l'intérieur de l'Assemblée. Bien sûr, puisque tout à l'heure, il était question des anciens, il faut que l'évêque soit apte à l'enseignement, on est conscient qu'il faut des prérequis au niveau de la personne. Comme il écrit, des hommes fidèles, des hommes dignes de confiance. C'est pas n'importe qui va pouvoir commencer à enseigner. 2 Timothée 2:2 à des hommes dignes, des êtres humains, des anthropos et non pas des anères. Pardonnez-moi pour le grec, mais c'est important quand même. Anère, ça veut dire époux, ça veut dire masculin. Anthropos, ça veut dire être humain, homme ou femme, d'une manière générique. Et là, Paul dit homme ou femme, d'une manière générique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cas d'un ministère comme Apollos ou comme lui, de prédicateur, mais on est le cas dans l'Église locale, et il y a des hommes et des femmes qui peuvent exercer ce ministère à travers ce don d'enseignement, ce service, à travers ce don d'enseignement d'intendance. Ces dernières années, par la grâce du Seigneur, formé plus d'une dizaine de stagiaires, et aussi une jeune femme, c'est un peu comme ma fille spirituelle, elle a vraiment un don d'enseignement extérieur. D'ailleurs, elle est devenue directrice d'une école publique jeunesse en mission au Canada, à côté de Montréal. Elle a cette capacité à enseigner, à communiquer des choses tellement, tellement impressionnantes que même les Américains l'ont pris. Alors, pour dire, voilà, ces dons sont au milieu de nous et ils sont opérants au milieu de nous et ils doivent être mis à l'œuvre au sein de l'Assemblée. C'est ce qui va fortifier l'Église. C'est ce qui va la fortifier. Non, j'en ai oublié un. Le don d'encouragement. Ah, je les aime beaucoup, ça. Don d'encouragement, Barnabas, Barnabas, le fils d'exhortation, le fils d'encouragement, c'est son nom. Encouragement, verbe parakaleo en grec, qui renvoie à parakletos, le consolateur, le Saint-Esprit. Je vous l'ai dit, celui qui encourage fait le ministère du Saint-Esprit. Alors, on est tous appelés à s'encourager mutuellement. Mais comme Barnabas, je crois qu'il existe des fils et des filles d'exhortation dans les églises. Il y a cet esprit d'encouragement, ils le portent, ils le vivent sur leur visage presque. Ils ont toujours la parole qu'il faut, l'attitude qu'il faut, le geste qu'il faut, la compréhension, l'écoute. Et ça va bien au-delà de ce que la plupart des gens font quand on essaie de s'encourager. Et des fois, quand on essaie de s'encourager, de se consoler, on le fait, mais des fois, on n'a pas la bonne approche, on n'a pas les bons mots, mais ces gens, ils ont toujours la bonne approche. Et ça vient tellement d'eux que quand on n'est pas bien, eh bien, on va vers eux. Et ils sont capables de faire des choses extraordinaires, comme Barnabas a été capable d'aller chercher Saul de Tarse quand personne ne voulait entendre parler de Saul de Tarse. Il s'est occupé de Marc, quand Paul l'avait presque banni, rejeté publiquement. Mais rendez compte, si Barnabas, fils d'exhortation, est allé chercher, récupérer Saul et est allé récupérer Marc. Ce qui veut dire que grâce à cela, 14 livres du Nouveau Testament ont été écrits. Les 13 épîtres pauliniennes, plus l'évangile de Marc. S'il n'y avait pas eu cet homme d'encouragement. Nous avons des frères et des sœurs qui sont des fils et des filles d'exhortation dans l'Église. On a besoin de les pousser en avant. On a besoin de le savoir. On ne va pas leur mettre un titre, etc. Mais ils sont là. Et quand ils remplissent leur fonction, ça fait du bien à l'Église. Le don de libéralité. Ah, bah décidément, il cumule. Quel homme extraordinaire, ce Barnabas. Comment est-ce qu'il nous est présenté, Barnabas? Vous vous rappelez l'histoire? À la fin d'Actes chapitre 4, il nous est parlé de Joseph, ce Lévite, fils d'exhortation Barnabas, qui vendit un champ et qui en apporta le produit aux pieds des apôtres. Avec Barnabas, on a vraiment un don de libéralité qui en a inspiré d'autres. Alors, d'autres, d'une manière pas terrible, Ananias et Saphira, juste après, mais aussi beaucoup d'autres dans l'Église qui vendaient leur maison, leur propriété, etc. Alors, je dis libéralité, parce que là, on n'est pas simplement dans le cadre de l'offrande, ou même de la dîme. Vendre un champ, c'est autre chose. Surtout si c'est une vigne, j'en sais rien. Surtout, par exemple, si le terrain est constructible. Là, il est clair qu'on parle en dizaines, voire, suivant l'endroit où vous êtes, en centaines de milliers d'euros. Donc, voilà pourquoi je parle de libéralité. Ce don de libéralité, on est au-delà donc des offrandes, mais ces dons ont souvent permis aux œuvres d'avancer, aux œuvres missionnaires, mais aux églises aussi, que ce soit à travers des legs, des héritages ou même des dons du vivant. Ce sont donc des choses importantes. La libéralité. Il y a quelques années, j'étais en Floride pour la convention, c'était une convention, peut-être une mission que vous avez entendu parler, dont vous avez entendu parler, qui s'appelle le Livre de Vie. Livre de Vie. C'est un des ouvrages qui sont distribués aux enfants. Ouais, c'est Schinner qui le fait en France. Et ils en ont distribué plus d'un milliard dans le monde entier. Et on était là, c'était donc en Floride, il y avait ce rassemblement, et puis il y avait quelques pasteurs, et il y avait aussi des cow-boys américains, en jeans, boots, chemise à carreaux et ceinturon. Des gens du Texas et de l'Oklahoma, en américains à fond. Puis un soir, il y a des moments spirituels, et puis un soir, il y a un fiscaliste qui vient, un spécialiste du droit, et il leur fait un cours de fiscalité. Alors, un truc pointu. Puis après, le président de la mission dit, bah, écoutez, on va faire une collecte, et puis on ne va pas parler en dollars, mais on va parler en nombre de livres achetés. Un livre égale un dollar. Il leur distribue des papiers. 5 minutes, les gens remplissent les papiers. Prendre le temps de les dépouiller. 22 millions de dollars. 22 millions de dollars. Alors, on a beau dire, nous, en France, mais le Seigneur pourvoira, ou... C'est vrai qu'on se débrouille toujours avec nos deux petites pièces de la veuve, souvent, mais il y a un moment où la libéralité permet d'accomplir des choses qui nous dépassent. Et la libéralité est un don, est une bonne gestion, est un engagement de foi. Et ça nous... Oui, l'œuvre de Dieu s'est fait aussi comme cela. Voilà. Mais la libéralité, l'offrande de la veuve aussi est tout aussi importante, ou les 5 pains et les 2 poissons. Je raconte souvent l'histoire de ces femmes de Séoul, qui après la Seconde Guerre mondiale, vivaient dans un pays qui était complètement exsangue, qui avait été entièrement détruit par la guerre avec le Japon. Et le réveil commence à éclater avec le passage Yang Guichao. Et puis, il y a tellement de monde que le projet de construire le premier bâtiment arrive. Et puis, il fallait tout de suite un bâtiment d'une certaine importance. Ce n'était pas encore le nouveau qu'ils ont, enfin, celui qu'ils ont depuis quelques années maintenant, depuis de nombreuses années. C'était le premier. Mais ils n'avaient pas d'argent. Mais les femmes avaient de beaux et longs cheveux. Qu'elles coupaient. Et qu'elles vendaient. Et ça aussi, c'est un don de libéralité. Une belle histoire. Et c'était les 2 petites pièces de toutes ces femmes, et qui, mis ensemble, ont fait quelque chose de grand. Que les cow-boys texans puissent mettre des millions, c'est une chose, et que ces femmes coréennes, à la sortie de la guerre, mettent les cheveux, avaient sinon plus de valeur aux yeux du Seigneur. C'était aussi un don de libéralité. Le don de diriger. Ah, oui, avec d'autres, on ne gagnerait pas beaucoup d'argent. Hein. Alors, on va appeler ça un don de gérer, un don de présider aussi, don de diriger ou don de présider, avec le langage moderne, on va parler de don de leadership à l'anglaise. Je vous recommande Phébé, notre sœur qui est diacre de l'église de Sancré, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, que vous l'assistiez dans les choses où vous aurez besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Alors, aide. Bon, elle a aidé. Le mot aide, c'est le mot le plus mal traduit dans les Écritures. Je vais vous dire pourquoi après. Mais déjà ici, puis l'autre encore, c'est encore plus flagrant. Aide. Elle a aidé. Ok, ben non. Aide, en grec, c'est un mot qui se traduit par diriger, présider, gérer. Ben, autrement dit, c'est une femme qui sait ce qu'elle fait. Et ce qui est bien, c'est, je note, vous pouvez noter, mes sœurs encore, c'est une femme. Et un des mots qui est dérivé de ce verbe faisait référence à un garant ou un tuteur dans la Grèce antique. Le garant ou le tuteur des enfants de la maison du maître. Et moi, je crois aussi qu'à la manière de Phébé, il y a dans nos églises des hommes, des femmes spécialement qualifiés par Dieu qui sont capables de gérer des groupes de personnes, des services, et de mener à bien efficacement des projets. Et nous avons besoin de Phébé, de gens comme ça qui sont capables de diriger des choses. Vous voyez, ça, c'est différent du don de service. Don de servir, il y a ces gens qui sont capables de faire des choses magnifiques, mais don de présider, c'est capable de gérer des équipes, hein, et d'aller sur des projets d'une dimension assez importante. Oui, je vous disais aide. Une aide semblable à soi-même. Je vous rappelle, Genèse. Alors, je dis, c'est encore c'est pas mon propos ce soir, mais c'est encore un des mots les plus mal traduits, parce qu'une aide semblable à lui-même. Pour certains, c'est... Je l'ai pas dit. Sauf que ce mot, d'habitude, est réservé à Dieu. Etzer kenedego, kenegedo. Dieu est l'aide d'Israël. C'est le même mot. Est-ce que Dieu est notre boniche? Ça nous donne une dimension de l'aide. La femme accomplit le ministère de Dieu à les côtés de l'époux. Elle est l'aide que le Seigneur lui donne. Elle a cette puissance qui vient du Seigneur pour être son aide. Tout comme Dieu vient en aide pour Israël, c'est le même mot. La femme vient en aide à l'époux. Et moi, je vais vous dire, messieurs, on a tout intérêt à avoir une femme qui soit animée, soit capable de cette aide. Parce que quand on fusionne et qu'on est un, vaut mieux être un là-haut que un en bas. On s'enrichit de notre force mutuelle. Vous voyez? Et quand on veut, quand trop souvent, on va traiter comme moins de rien. En traitant la femme comme moins de rien, on dévalue le don de Dieu et on se dévalue soi-même. Mais en élevant la femme à la hauteur du don de Dieu, le mari s'élève. Parce que plus il élève sa femme, plus il s'élève lui-même, parce qu'ensemble ils vont accomplir de grandes choses. Voilà ce mot-là. Et puis on finit par le don de bienveillance. Ah, il fait du bien aussi ce don. Don de bienveillance ou de miséricorde, suivant les traductions, c'est ici l'expression d'un amour concret à l'égard de personnes qui souffrent matériellement, moralement, physiquement. Et ce don se manifeste dans l'hospitalité, les visites, l'assistance aux personnes. C'est vrai qu'on peut tous se visiter. Mais là, encore une fois, c'est comme pour le don d'encouragement. Il y a ces gens... C'est en eux, ils vont être là. C'est eux qui vont être les premiers au chevet des malades, et ceci et cela, pour relever, pour accompagner. Et je pense à, je mets Onésiphore de Timothée 1,16, je vous lis le passage. Paul est en prison à Rome. Et Onésiphore habite à Éphèse, donc il y a quand même un long chemin depuis les côtes de la Turquie jusqu'à Rome. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé. Et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement. Et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Et là, on a besoin d'avoir de ces Onésiphores dans nos églises. C'est une assistance qui ne vient pas... Le pasteur a son rôle à jouer, oui, c'est clair. Mais encore une fois, Dieu a donné dans l'Assemblée ce genre de don qui... Parce qu'il veut que ça vienne de l'Assemblée. Vous voyez, il veut que cette miséricorde, cette compassion, cette bienveillance vienne du corps en lui-même. Nous sommes membres les uns des autres. Et il y a au milieu de nous des membres qui, puisque nous sommes attachés les uns aux autres, qui vont pouvoir apporter cette assistance, ce soutien, cette présence. Voilà donc sept dons d'intendance. Je vous le disais tout à l'heure, pour moi, ils sont des viviers de croissance pour l'Église. Ils nous sont accordés à la nouvelle naissance. Dieu nous les accorde. Mais ils vont se développer avec la maturité chrétienne, en comprenant ce que nous sommes en Christ. Et en réalisant ce que le Seigneur nous a donné. Et je pense qu'ils vont, au fur et à mesure, eh bien, se manifester dans le service général. Et puis, il y a cette sensibilité qu'il a, c'est évident. Frère, cette sœur, il y a cette marque de Dieu sur sa vie. Eh bien, ça vaut le coup de revenir vers cette liste de dons qui est là et de comparer. Mais ça, voilà, c'est ce que le Seigneur dit. Et lorsque les dons d'intendance sont mis à l'œuvre dans l'Église, ça apporte une grande bénédiction. Acte 6. Voilà, les tensions liées à la distribution de la nourriture aux veuves et les apôtres ont eu raison, c'était pas à eux de trancher, c'était pas à eux de faire quelque chose, ils devaient se consacrer à la prière, à l'enseignement, à la prédication, à la parole, mais ils ont dit qu'on choisisse au milieu de nous sept frères dont on rende un bon témoignage qui soit plein d'Esprit Saint. Et l'Église a élu sept hommes, dont Étienne et Philippe. Et ce qui est intéressant, c'est que sitôt après le passage, il est dit que l'Église est entrée dans une nouvelle vague de croissance, de forte croissance, très forte croissance. Parce que je crois, quand le corps de Christ est à l'œuvre et qu'on des gens commencent à servir, d'abord ça permet au pasteur de se recentrer sur les choses. Dans l'État, on parle des activités régaliennes de l'État, mais c'est-à-dire la justice, la défense, enfin, ça c'est mission principale de l'État. Eh bien, les pasteurs, les tous évangélistes ou quoi, ont une mission principale qui est quand même la prédication de la parole, la prière. Leur permettre de se recentrer sur ça et dire que l'Église prend en charge ce que le Seigneur veut d'elle, avec les dons qu'il lui confie. L'Église est là, et bien, chacun remplissant son rôle, l'œuvre de Dieu va aller de l'avant. D'encourager, de former, de préparer, vous êtes ces gens. Et si vous rentrez dans votre appel, si vous mettez en œuvre les dons que vous avez reçus du Seigneur, votre Église en sera plus forte et pourra accomplir de plus grandes choses encore. Non seulement là, ensemble, vous accomplirez des grandes choses, mais à l'extérieur aussi, vous pourrez accomplir de grandes choses. Donc oui, je crois qu'il y a un vivier de croissance qui est là, et que Dieu est encore capable de faire lever du milieu de nous des Phébé, des Tabitha, des Priscille, des Aquila, des Étienne, des Philippe, des Barnabas, des Philémon, et d'autres encore. C'est vous. Cette liste de noms, c'est vous. Vous êtes ces gens.